Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit exposé le plus rapide possible. Allez, on va essayer de tenir en 45 minutes, et après, vous me posez des questions. D'abord, une question générale. Est-ce que vous savez comment marche une centrale nucléaire ? Globalement, oui. Bon, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Voilà. C'est parti. Alors, je fais quand même un petit rappel de physique. Donc, l'exposé en deux parties. La physique nucléaire pour les nuls. Je ne dis pas ça pour vous. Et après, un peu de technologie, c'est-à-dire comment fonctionnent les équipements qui sont dans la centrale. Alors, rappel de la théorie atomique. Le noyau, les électrons, les protons, les neutrons, tout ça, ça vous parle. Je rentre pas plus dans le détail. Évidemment, ça vous parle, le tableau périodique des éléments chimiques. Alors, je rappelle quand même, j'aime bien faire un petit peu d'histoire des sciences. Ça date de 1869. Et la découverte de la fission, ça date de 1939. Et on sait aujourd'hui que beaucoup de choses qui sont la physique de la fission sont explicables dans le cadre du tableau de Mendeleïev. Donc ce tableau de Mendeleïev, c'est une structure de pensée, de classement, qui garde toute sa valeur. Alors, est-ce que vous avez déjà vu ce type de graphique ? Le tableau NZ. Alors, c'est un graphe, si vous voulez. Vous avez une grille dans laquelle vous mettez sur les abscisses le nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons, et en ordonnée, le nombre de protons. Et ça vous fait une courbe qui a cette allure-là, une forme de banane. Et vous voyez les couleurs. Plus vous êtes au centre de ce nuage-là, plus vous êtes dans des zones d'isotopes stables. Que veut dire le mot isotope ?
Isotope, c'est le nombre de nucléons par rapport à un même nombre de protons.
Non, isotope, oui.
C'est plus de
neutrons
que de...
Faut analyser le mot iso, le même, top, ça veut dire l'endroit, au même endroit, c'est-à-dire les éléments qui sont dans le même endroit du tableau de Mendeleïev. C'est-à-dire le tableau de Mendeleïev, on peut l'imaginer comme un millefeuille, et de dire, eh bien, au même endroit... Vous surimprimez plusieurs tableaux de Mendeleïev, vous avez différents isotopes, c'est-à-dire d'éléments qui sont dans la même case, mais qui n'ont pas le même nombre de nucléons. Ok ? Isotope. C'est une dame qui a inventé le nom. Mais c'est le prix Nobel, c'est un homme qui l'a eu pour ça. Après, ça, c'était dans les années 1916. Alors, je fais des zooms sur ce nuage, et vous voyez, les cases noires, ce sont les noyaux, les isotopes qui sont stables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas radioactifs. Dès que vous êtes dans les zones bleues, rouges ou jaunes, vous êtes radioactif, c'est-à-dire que le noyau n'est pas stable et évolue en perdant ou en gagnant des nucléons. Alors là, on va dans la partie haute, hein, où on va trouver les éléments fissiles. Des éléments fissiles, alors fissiles, ça veut dire quoi ? C'est qui ont la capacité naturelle de se casser, sans action extérieure. Et dans la classification, dans tous ces cas, je n'ai pas compté le nombre total, ça doit en faire un millier, il n'y en a que quatre. Et les quatre, ils ont au moins des jeunes caractéristiques, il faut que le nombre de nucléons soit impair. On va aller plus dans le détail. Alors là, on n'en voit que 3. C'est la zone du uranium. 234, 235, 238. Alors le 238, c'est l'uranium naturel, qui est le plus stable. On le considère comme stable parce qu'il a une période de décroissance extrêmement longue. Et donc l'uranium 235, c'est celui qui est fissile, qui est naturellement fissile. Alors, qu'est-ce que c'est que la fission? C'est le mécanisme qui est décrit sur cette petite image. Cette fission, on ne sait qu'elle existe que depuis le 25 décembre 1938. 25 décembre 1938. Elle a été connue dans le monde entier la semaine qui a suivi, c'est-à-dire la première semaine du mois de janvier 1939. Et celui qui a, contre sa volonté, répandu cette nouvelle, Otto Hahn, c'est celui qui a découvert la fission, c'est le physicien danois. J'ai un trou. Niels Bohr qui est à l'origine du modèle de l'atome qu'on considère comme abouti dans les années 20. Et Niels Bohr, il est allé dans un congrès et il avait promis à Otto Hahn de ne pas vendre la mèche, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il y avait un journaliste qui était là, qui allait dans un congrès de physique, et lui a vendu la mèche, et après, ça a fait tache d'huile dans le monde entier, dans le milieu scientifique. À ce mécanisme de... On a dit, mais... Parce que personne n'y croyait, à la fission. Qu'est-ce que c'est que la fission? Vous avez des énormes noyaux qui ont 235 nucléons, et vous envoyez une petite gobille, qui est un neutron, ce noyau est hyper stable, a priori. Vous envoyez un petit neutron et vous le cassez en deux. C'est pas possible. Tous les physiciens de l'époque disaient c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et on en a obtenu la preuve expérimentale avec des travaux des Curie et de Otto Hahn et Lise Meitner. Finalement, il a fallu se rendre à l'évidence. Une petite bille qu'on envoie sur ce ballon de foot arrive à le casser en deux alors qu'il a des forces nucléaires d'une puissance extraordinaire qui lui assure sa stabilité. Alors, le mécanisme, il a été décrit et calculé par Lise Meitner et Otto Fritz, qui était le neveu de Otto Hahn, et ils étaient exilés, je rappelle les circonstances, ils étaient exilés en Suède, et tout ça s'est fait par des courriers avec des timbres et des enveloppes. Il n'y avait pas d'internet, et on s'envoyait des calculs faits à la main sur des petits bouts de papier, et donc ça, et les calculs ont été faits pendant une partie de ski en Suède. Ils ont dit, oulala, comment ça se fait? Et donc, c'est la théorie de la goutte. C'est-à-dire que quand le noyau arrive, il déstabilise la forme du noyau et le noyau se met en forme de cacahuète, comme vous le voyez là. Et il se met à osciller comme ça entre la forme sphérique et la forme cacahuète, et la cacahuète, elle finit par se casser en deux. Pas totalement en deux, parce qu'en général, c'est un tiers, deux tiers. C'est ce qu'on a su après. Et évidemment, en faisant ce phénomène-là, la fission, elle libère les forces de cohésion du noyau qui étaient emprisonnées sur elles-mêmes. Parce que l'idée d'utiliser les forces de cohésion du noyau comme source d'énergie énorme, elle était dans la tête des physiciens depuis déjà une vingtaine d'années. Mais en disant, on n'y arrivera jamais, c'est pas possible, puisqu'elles sont d'une telle intensité qu'aucune action extérieure ne sera capable de faire ça. Ben si, il y a quelques cas où ça marche. Et ça, ça a été découvert qu'en 1930. Alors, non seulement le noyau se casse, mais bien sûr, il libère l'énergie, c'est ce qui est marqué chaleur, là. Mais surtout, il libère un certain nombre d'éléments, donc on casse le noyau en deux, mais de temps en temps, on libère également des particules alpha, je rappelle, le noyau d'hélium qui fait deux protons, deux neutrons. Vous les voyez en haut, noyau d'hélium. Donc, l'éjection des noyaux d'hélium, c'est ce qu'on observe dans la radioactivité alpha, c'est-à-dire la perte simultanée de deux protons et de deux neutrons. La perte d'électrons, c'est la radioactivité bêta, bêta plus, bêta moins plus exactement, donc perte d'un électron, et le rayonnement gamma, gamma c'est l'énergie des rayonnements électromagnétiques. Donc tout ça, c'est tout ce qui se passe, mais surtout également, il y a quelques neutrons qui s'échappent d'une façon isolée. Et très rapidement, on a découvert qu'en moyenne, il y avait 2,6 neutrons qui s'échappaient de chaque cassure, alors qu'on avait utilisé un seul neutron pour casser un noyau. Donc on a un excès de neutrons dans le processus. Et tout de suite, l'idée vient à la tête, ben, les neutrons excédentaires peuvent à nouveau, à côté, créer la même fission, etc., etc., d'où la fameuse réaction en chaîne. À la réaction en chaîne, il y a un petit problème, c'est que si la durée de vie d'un cycle, si vous voulez, de cassure du noyau, c'est un millionième de seconde. Essayez d'imaginer que tous les millionièmes de seconde, vous recréez une nouvelle fission, là, c'est effectivement l'explosion. Et c'est impossible d'imaginer que cette réaction puisse être contrôlable de l'extérieur. Et pourtant, on y arrive. Comment ça se fait qu'on y arrive? C'est les questions que je me pose là. Les physiciens se la sont posées dans les mois qui ont suivi le mois de janvier 1939. Ben, ça marche parce qu'il y a un petit résidu de neutrons qui sont des neutrons retardés. J'y reviendrai tout à l'heure. Qui permettent de contrôler la réaction. Alors, je pose le postulat, après je vous raconterai comment ça marche, que la réaction en chaîne est maîtrisable, puisqu'on a maintenant, on sait, on a démontré qu'on savait le faire. Déjà, on va parler de notion efficace, de section efficace. On va parler de bilan neutronique, on va parler de neutrons rapides et thermiques, du fonctionnement en régime permanent et du fonctionnement en régime transitoire. Et on parlera des poisons neutroniques. Alors, qu'est-ce que c'est que la section efficace? Eh bien, c'est la probabilité qu'on ait quand c'est le tir au pigeon à la foire foraine, de dire, ben, le noyau, il est là, mon neutron, il est là, je tire dessus. Quelle est la probabilité que j'ai de le toucher et de faire déclencher la fission? Alors, quand vous faites tous les calculs, ça a la dimension d'une surface. Ça. Donc, parce que la taille des particules, elle ne change pas. Mais si vous tirez à toute vitesse La probabilité que vous touchiez la cible, elle est faible. Si vous tirez doucement et vous visez bien, la probabilité de toucher la cible est plus forte. C'est ça un petit peu la notion de section efficace. Alors, quand vous avez une grande section efficace, ça veut dire que la probabilité d'avoir une fission est élevée. Quand elle est faible, eh bien, la probabilité est faible. Et ça se représente de cette façon-là. Donc vous avez des diagrammes de section efficace. Vous avez en abscisse l'énergie et en ordonnée la section efficace. Donc vous voyez très vite toutes les interactions nucléaires sont représentées comme ça. Et quand vous avez une haute énergie, c'est-à-dire l'énergie naturelle à la première fission, c'est-à-dire 10 puissance 4 MeV, par exemple, eh bien la probabilité, elle est, entre guillemets, faible. Et quand vous avez une énergie qui est de 10 moins 3 MeV, qui est, on va plutôt prendre 10 moins 1, qui est de l'ordre de grandeur de l'agitation thermique des particules dans le médium, hein, eh bien, la section efficace est nettement supérieure. Vous voyez, vous passez de 1 en valeur à 10 puissance 3, 10 puissance 2, 10 puissance 3. Et c'est ce qu'on appelle des neutrons. Alors, quand on est sur la droite, ce sont des neutrons rapides, c'est ceux qui génèrent naturellement la première fission. Et quand vous êtes sur le complètement sur la gauche, c'est des neutrons lents, entre guillemets, qui sont avec toute une série de chocs avec tout l'environnement au millionième choc, et bien à condition qu'ils n'aient pas été absorbés par les noyaux présents, et bien si à ce moment-là ils font une fission, ils sont beaucoup plus efficaces. Pour faire ça, comment on fait ? Eh bien, on utilise un médium qui s'appelle le modérateur, c'est-à-dire un corps, alors il y a plusieurs corps possibles, qui fait un ralentissement des neutrons. Alors, on ne les ralentit pas, les neutrons, dans leur milieu, ils vont toujours à la même vitesse, mais qui font des chocs inélastiques avec les différents noyaux, et c'est le billard à 1000 bandes, hein, et au bout d'un moment, eh bien, la vitesse moyenne finit par baisser. Une des propriétés de ce corps, c'est effectivement de ne pas absorber les neutrons. Sinon, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'il soit transparent en neutrons et qu'il soit efficace au niveau du ralentissement de la vitesse moyenne des neutrons. Donc, c'est ce qu'on appelle le modérateur. Alors, il y a deux corps. On a tout essayé, évidemment. Expérimentalement, sans trop savoir où on allait. Et il y a deux corps qui vont très bien, c'est l'eau et le graphite. Et la plupart des réacteurs nucléaires qui existent, eh bien, ont un modérateur soit en eau, soit en graphite. Alors l'eau, il y a deux types d'eau. Il y a l'eau normale et l'eau qu'on appelle l'eau lourde. C'est celle qui est faite avec l'isotope 2, de l'hydrogène, donc le D2O, hein, qui est plus efficace encore que l'eau ordinaire. D'où certaines technologies qui utilisent l'eau lourde. Alors, le bilan neutronique, je vous l'ai dit, à chaque fission, on génère 2,6 neutrons, donc il y en a beaucoup trop. Alors déjà on en perd parce que tout ça, ça se perd dans les structures externes, etc. Mais on en perd quelquefois pas suffisamment. Et la réaction est stable si on utilise un neutron à chaque génération. Donc les 1,6 qu'il y a en trop, eh bien soit il faut les absorber par des dispositifs externes, c'est ce qu'on appellera les barres de contrôle, pour avoir un bouton pour régler la puissance, soit Ils se dispersent, par exemple, dans les structures externes, la ferraille, le béton qui sont autour, si vous voulez. Voilà. Voilà une petite image qui montre le cycle des neutrons. Hein. Donc, quand vous êtes là, vous faites 1000 neutrons thermiques. Alors, on considère, là, c'est un bilan qui est fait une fois que le modérateur fait son travail. C'est-à-dire, c'est les centrales où les neutrons sont arrivés à une vitesse suffisamment basse pour que l'efficacité de leur action soit maximale. Donc, il va taper sur de l'uranium-235 qui est fissile et il va générer 1300 neutrons rapides, ce que je vous ai montré à droite du graphique tout à l'heure. Donc, il y en a déjà trop. Hein. Donc, dans le 238, une partie va générer des fissions rapides. Donc ça va encore en rajouter quelques-uns. On a des fuites, mais surtout on a le modérateur là qui, vous voyez, fait redescendre le chiffre de 1000 à 1170. Et ensuite, il y a différentes pertes que vous voyez ici, là. Les pertes par résonance, les résonances, c'est ce qu'on voit quand on est dans des niveaux d'énergie qui correspondent aux orbites extérieures du nuage électronique. Des pertes thermiques, des fuites de neutrons thermiques, et au bout du bout, eh bien, quand ça marche bien, vous retrouvez 1000 neutrons pour que la boucle s'auto-entretienne et que la puissance reste constante. Donc le bouton de réglage de la puissance, ben, il est là, dans ce qu'on appelle le modérateur. Et donc, technologiquement, on utilise ce qu'on appelle les barres de contrôle, qui sont des barres. Alors on a essayé aussi des tas de substances, et ce qui va bien, c'est soit du bore, soit du cadmium. Alors, le problème du bore, on l'utilise dans le sous forme liquide, enfin. C'est pas le bore, il n'est pas liquide, mais enfin, de l'acide borique, par exemple. Hein, c'est utilisé pour étouffer les réactions nucléaires en cas d'accident. Hein, on envoie de l'acide borique dans les circuits. Mais pour le fonctionnement normal, on enfonce plus ou moins les barres. Et d'ailleurs, la première pile d'Enrico Fermi en 1942 à Chicago, les barres étaient tenues à la main. C'était horizontal, et puis les gens, lui il avait une règle de calcul, puis il avait un gars, tu sors de 5 cm, puis on regardait les compteurs. Allez, encore 5 cm. Et puis il y avait une barre de sécurité qui était pendue en haut, au bout d'une corde. Puis il y avait un gars qui était avec une hache là, en disant si vraiment ça part, parce qu'il y avait un truc qui était sonore, eh bien on donne un coup de hache sur la corde. Pour faire tomber la barre. Et c'est arrivé une fois, comme ça. Parce qu'ils avaient la pétoche, évidemment. Hein. C'est les témoins qui ont raconté cette histoire. Mais M. Fermi, il était, comme on a dit ses collègues, as cool as a cucumber. C'est un gars qui avait les nerfs solides. Tous les autres étaient comme ça. Le 2 décembre 1942, dans le stade de squash désaffecté de l'Université de Chicago. Alors, les types de. On va parler un peu de la radioactivité. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, alpha c'est la première, bêta c'est perte d'un électron, et désintégration gamma. La radioactivité, vous avez tous appris ça, je n'insiste pas.
Non,
pas encore.
C'est pas au programme.
La radioactivité, alors c'est le phénomène qui a été découvert au début du siècle par Becquerel et Pierre et Marie Curie. Donc il dit, eh bien, il y a un phénomène naturel pour un certain nombre de substances. Celles qui sont dans le fameux graphique, mais il n'était pas encore tracé à cette époque-là, qui ne sont pas dans la bande de stabilité. Et puis on constate que ben, y a des rayonnements qui apparaissent spontanément, et puis ces rayonnements ont tendance à diminuer suivant une loi exponentielle décroissante. Voilà. Et c'est là qu'on parle de la période de décroissance, c'est-à-dire la durée pendant laquelle les désintégrations sont divisées par deux. C'est une convention. Alors, quand vous retournez dans le tableau NZ ici, eh bien, qu'est-ce que c'est que ces désintégrations? Un atome est ici dans une case.
On ne voit pas votre souris.
Vous ne le voyez pas?
Non.
Ah ben non, là, je ne suis pas sur la bonne case. Vous ne voyez pas la souris?
Non.
Ah. Si vous insistez. Là, c'est mieux.
Là, c'est mieux.
C'est mieux. Voilà, l'atome, donc. Vous avez une désintégration alpha, vous perdez simultanément deux protons et deux neutrons, donc l'atome va dans cette case-là. Si vous avez une désintégration bêta moins ici, ben, ça va là. Une perte de neutrons ici, une perte de protons ici, et le bêta plus qui a été découvert après, qui fait ça. Et ensuite, vous avez les familles de désintégration qui vous font passer de l'uranium-238 au plomb, qui est dans toute cette série, c'est le premier qui soit stable, c'est-à-dire qui soit plus radioactif, et vous passez par tous ces éléments intermédiaires qui sont le thorium-234, le plutonium-234, l'uranium-234, le thorium-230, le radium-226, le radium découvert par Marie Curie, le fameux radon, un gaz rare qui est radioactif, qui est très présent dans les massifs granitiques, le polonium-218, etc., etc., et vous arrivez au plomb. Et voilà la table de ce qui permet au système de fission de fonctionner de façon industrielle. Parce que, de temps en temps, eh bien, il y a des réactions nucléaires de radioactivité qui font que des neutrons apparaissent quelques dixièmes de seconde et non pas un millième et un millionième de seconde après le neutron qui est venu de la fission. Et cette petite perlimpinpin de quelques pourcents, de quelques parties de pourcents, fait que on arrive à maîtriser la réaction de fission. Vous voyez les temps d'apparition. Ici, pour la fission, on devrait avoir 0 avec 10 puissance moins 6, si vous voulez. Alors, fonctionnement en régime transitoire. Là, donc, tout ce que je vous ai dit, c'est en régime permanent. On y est arrivé, on a mis les barres, on ne sait pas trop comment on y est arrivé, mais enfin, en fait, je vous explique quand même comment ça marche. On met quand même une petite amorce tout à fait au départ, qui fait une amorce de neutrons, et puis après, tout doucement, on soulève les barres pour que le mécanisme s'enclenche et monte en puissance. Alors ça a été découvert assez rapidement technologiquement dans les premières années des années 40. Mais quand on arrêtait, pour arrêter, on descendait les barres, puis après on remontait les barres, merde, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Et on avait beau remonter les barres, ça ne marche plus. Alors les physiciens se sont grattés la tête, et c'est ce qu'on appelle les poisons neutroniques. Voilà. Quand vous avez fait un transitoire comme ça, c'est-à-dire vous arrêtez, il y a les chaînes radioactives que je vous ai montrées ici, et bien localement, vous avez une accumulation de certains éléments, en particulier le fameux xénon 131, si ma mémoire est bonne, qui a la désagréable propriété, lui, de bouffer du neutron. Et comme ça bouffe du neutron, eh bien, il y avait une infection, on va dire, un empoisonnement au xénon qui faisait que ça ne redémarrait plus. Et donc, et on a compris que c'était comme ça, parce qu'au bout de quelques jours, en restant arrêté, on levait les barres et hop, à nouveau, ça remarchait. Miracolo, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a compris après quel était le mécanisme. Il y en a d'autres, mais le xénon, on le cite toujours à titre d'exemple. Alors, pour être très clair, on ne peut pas s'amuser comme des guignols à faire « je te monte, je te descends, je tourne le bouton comme ci, comme ci, comme ça ». Dans les centrales nucléaires, si on faisait de yo-yo comme ça, d'ajustement de la puissance, ça s'arrêterait parce qu'on aurait ce phénomène d'empoisonnement neutronique. Xénon 143. Vous voyez, ma mémoire n'est pas bonne. Il y en a un autre, c'est le brome 90. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Statistiquement, on s'aperçoit que la coupure des noyaux n'est pas moitié-moitié, c'est plutôt un tiers-deux-tiers. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'Otto Hahn a dit il y a un truc qui ne va pas, parce que dans les... Le phénomène de fission était enclenché, mais on ne comprenait pas ce qu'il y avait, et on trouve du barium. C'est pas possible que dans un phénomène radioactif, on trouve un élément qui soit d'une valeur très inférieure à l'élément sur lequel on travaille. On ne pouvait que rajouter des choses, mais on ne pouvait pas en enlever un tiers, si vous voulez. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que les gens n'y croyaient pas, même les gens qui ont eu le prix Nobel. Ils ont dit, c'est pas possible. Et donc ils ont été obligés de laisser leur certitude dans leur poche et de dire, on s'est trompé. C'est possible. Voilà. C'est la physique nucléaire pour les nuls. J'arrêterai là. Et maintenant, on va passer à la technologie. Je vous laisse lire cette magnifique... Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça, c'est EDF. Donc, c'est un moyen de bouillir de l'eau en grande quantité, sans feu, pas cher et proprement. Alors, on a différents types de réacteurs. Voilà la typologie des réacteurs. Donc, PWR, c'est les logos, enfin les acronymes anglo-saxons. Pressure Water Reactor, donc les réacteurs tels qu'on les utilise en France et dans la plupart des pays mondiaux et surtout occidentaux. BWR, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on utilise de l'eau bouillante, parce qu'on utilise la chaleur latente d'ébullition de l'eau pour extraire plus d'énergie, mais c'est plus délicat à manipuler. Les réacteurs à eau lourde, je l'ai un petit peu évoqué, il y en a eu quelques-uns de faits, surtout les Canadiens l'ont fait, parce que les Canadiens ont une filière qui s'appelle Candu, canadien deutérium uranium, voilà, ça veut dire ça. Et pourquoi? Parce que au Canada, il y a beaucoup de barrages hydroélectriques, et pour faire de l'eau lourde, c'est par distillation. Et donc, ils avaient de l'électricité non nucléaire qui permettait de fabriquer de l'eau lourde en quantité significative. Les fameux surgénérateurs, donc, qui sont... Alors, qu'est-ce que c'est que la surgénération? C'est un principe physique qui consiste à dire, je vais arriver à... à fertiliser l'uranium-238 et à le rendre fissile en le transformant en plutonium. Puisque je rappelle que dans l'uranium naturel, il n'y a que 0,7% qui est de l'uranium-235. Donc tout le reste, c'est du déchet. C'est l'uranium-238. Mais avec une disposition technologique particulière, on peut mettre de l'uranium-238 dans certains types de réacteurs et faire que, dans ce qu'on appelle la couverture, qui est en uranium-238, on fabrique du plutonium et qu'on le réinjecte dans le circuit. Et comme ça, on multiplie par un facteur théorique de 50 les réserves d'éléments fissiles. Donc aujourd'hui, on dit, avec les projections actuelles, on a un siècle d'énergie avec l'uranium naturel, avec les surgénérateurs, on a 25 siècles. Mais c'est plus délicat à mettre au point, et tous les antinucléaires ont focalisé leur ire contre cette technologie. Je rappelle Phoenix, Super Phoenix. Super Phoenix, c'était la centrale qui a fonctionné jusqu'en 1998. Et qui a été arrêté par décision politique par Madame Voynet, mais vous n'étiez pas née, hein. Madame Voynet, ministre de l'écologie, écolo-intégriste. Et pour le moment, cette technologie n'est continuée qu'en URSS, enfin en Russie aujourd'hui, et en Chine. Mais il y a un lobby qui pousse à ce qu'on reparte dans cette technologie. Et la haute température. Alors là, c'est une technologie qui est assez différente. La forme de l'élément combustible est complètement différente. J'en dirai pas trop, vous pourrez me poser des questions. J'ai travaillé là-dessus aussi. Ça permet en particulier de fabriquer de l'hydrogène par décomposition de l'eau à haute température. Vous savez, on parle beaucoup de l'hydrogène en ce moment en disant comment faire de l'hydrogène. C'est une des solutions, mais qui est un peu caché derrière le rideau par rapport aux autres solutions classiques telles que l'électrolyse. Alors qu'est-ce que c'est qu'un réacteur? C'est une gamelle comme ça, dans laquelle il y a de l'eau, une entrée d'eau, une sortie d'eau, il y a des éléments combustibles, et puis il y a des barres qui plongent plus ou moins pour réguler le flux neutronique. Alors, les éléments combustibles dans les PWR, c'est-à-dire dans les centrales qui existent en France, c'est fait de cette façon-là. Je rappelle, cette technologie, elle est américaine, hein, et tout ce qu'on fait en France, c'est le résultat d'un accord de licence qui a été acquis en 1958. Alors, c'est des petits tubes qui font 12 mm de diamètre, 1 mm d'épaisseur, c'est en zircaloy. Il y a... un tube où il y a beaucoup de zirconium qui a la propriété de bien résister à la corrosion et surtout de ne pas bouffer des neutrons. Et dedans, on met des petites pastilles. C'est des petits cylindres qui font 1 cm de hauteur et 1 cm de diamètre. C'est de l'oxyde d'uranium frité. C'est noir, hein, et c'est joli. C'est comme un tube d'aspirine, mais avec des cachets qui feraient 1 cm d'épaisseur. Et dans chacun de ces tubes, on met simplement dans le fond, évidemment tout ça c'est scellé, il y a un petit ressort pour adapter la dilatation différentielle entre la pile d'éléments, enfin de pastilles et le tube. Et tout ça, c'est assemblé dans ce qu'on appelle des grappes, qui font 17 par 17. Et puis, ça fait ce grand bazar, là, qui fait, vous voyez, 4 mètres de long. Et les éléments combustibles qu'on met dans la centrale, ben, vous avez, ça dépend des modèles, entre 150 et 250 éléments combustibles, comme ça, suivant la taille du réacteur. Voilà, petite image. Et voilà l'aspect, vous voyez, de quand on est dans la piscine. Oui, un point important, ces éléments combustibles, il faut les changer de temps en temps parce qu'ils s'épuisent. Donc il faut remettre du combustible neuf, comme dans beaucoup de technologies. Et pour faire ça, ben, évidemment, ça crache un max. Donc tout ça, on le fait sous eau. Et donc la cuve, elle est dans ce qu'on appelle une piscine. C'est une véritable piscine en acier inoxydable. Et tout ça, c'est noyé dans l'eau. Hein, et on fait toutes ces opérations en regardant par-dessus. Vous pouvez, à Chalon, il y a une installation qui s'appelle le CETIC, qui est une centrale à l'échelle 1, mais qui, où il n'y a pas d'éléments combustibles dedans, qui permet pour le monde entier de faire tous les entraînements sur les appareils et de qualifier les outillages de maintenance. Comment ?
Et la moitié du public qui est allé l'année dernière.
Ah bon ? Oui, oui. Non, mais ça, c'est très bien à visiter. Alors, un peu moins schématique, voilà un petit peu la façon dont ça se présente. Donc, vous voyez la cuve et le réacteur, ici. Voilà. Là, ce qu'on appelle le générateur de vapeur, c'est l'échangeur qui va permettre de passer du circuit primaire, qui est les tuyaux rouges qui passent à travers les éléments combustibles. Là, après, ça passe dans des tubes qui font 20 mm de diamètre et ça échange la chaleur avec l'eau secondaire qui est verte ici, si vous voulez. Et cette eau-là, elle se vaporise, bien sûr, et elle va dans la turbine qui entraîne l'alternateur, et ensuite elle est refroidie et reliquéfiée avec un condenseur. Donc c'est la machine à vapeur classique, avec le cycle d'une machine à vapeur, cycle de Carnot. Il n'y a rien d'extraordinaire. Simplement le fait que c'est la dimension qui est extraordinaire. Voilà. Ici, on a une pompe, effectivement, pour faire circuler le fluide primaire. Et on a un petit système de... Alors, la régulation de pression est faite par ce qu'on appelle un pressuriseur. C'est un ballon accumulateur dans lequel soit on chauffe, soit on refroidit la vapeur qui est là pour régler la pression. Voilà, très globalement, comment est faite une centrale. Et on va dire, 90% des centrales dans le monde sont basées sur ce principe-là. Voilà une autre image quand on est, parce que effectivement pour le condenseur, vous avez deux façons de refroidir le condenseur. Soit vous avez un fleuve ou la mer qui est à proximité, donc c'est pour ça qu'on privilégie les localisations près des fleuves. Mais quelquefois, des fleuves, par exemple, on est le long de la Loire, on ne peut pas dire qu'il y a un débit d'enfer dans le fleuve Loire. Donc on met des aéréfrigérants, les fameuses tours de refroidissement, qui permettent de faire un refroidissement atmosphérique dans le condenseur qui se trouve à la partie basse. Et voilà le fameux réacteur EPR dont on vous a rebattu les oreilles pendant 20 ans, hein, qui est dans beaucoup de souffrances, va finir par accoucher et fonctionner, puisqu'il y en a déjà deux qui fonctionnent en Chine, un troisième qui fonctionne en Finlande, et celui-là va fonctionner au mois de juin. Il fonctionne déjà, mais il va être couplé au réseau au mois de juin de cette année, juin 2024. Ce truc-là a eu des tas de soucis, de complexité, on va dire, d'une façon un peu globale, ce qui explique largement les surcoûts. Et les suivants qui vont être faits, ben, on a tenu compte de tous ces retours d'expérience pour faire qu'on invente un EPR 2, numéro 2, qui soit meilleur, moins cher, plus simple, etc., etc. Et d'ailleurs, à l'UTB, on a tout un cycle de conférences sur ce type de réacteur qui est en cours de construction. On aura, ben, tiens, au mois d'avril, le chef de projet de l'EPR2 qui va nous faire une conférence à Chalon sur cette nouvelle technologie. Alors, un point important, les barrières de protection. Tout ça, comme dit quelqu'un qui, un écolo qui est pour le nucléaire, Bruno Combi, il dit, c'est la seule source d'énergie qui ne rejette aucun déchets dans l'environnement. Il y a bien des déchets, mais les déchets sont confinés dans tout un système. C'est la seule source qui soit dans ce cas-là. Alors, pour se protéger, les barrières de protection, c'est pour éviter, justement, que la radioactivité s'échappe dans l'atmosphère. Donc, on a ce qu'on appelle une défense en profondeur, et on a différentes barrières à différents niveaux. Le premier niveau, bien sûr, c'est la gaine du combustible. C'est-à-dire la radioactivité, elle est dans les passilles des éléments combustibles. Donc la gaine du combustible, elle ne doit pas se fissurer, elle doit être étanche, etc., etc. Et on a des systèmes de détection de radioactivité côté circuit primaire pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Et il peut y en avoir, s'il y en a, ben on retire l'élément, on arrête, on retire l'élément combustible et on en met un neuf. Voilà. La deuxième barrière, ben c'est les enceintes des appareils, c'est-à-dire la cuve du réacteur, la cuve du générateur de vapeur, etc., etc. Alors, le seul endroit où l'épaisseur est fine, eh bien, c'est le tube du générateur de vapeur, puisque à nouveau, ça fait à peu près un millimètre d'épaisseur. Donc, c'est la zone sensible. Et vous avez peut-être entendu parler qu'en ce moment, on change beaucoup de générateur de vapeur, parce que ben, y a des fissurations au niveau de ces tubes, des fissurations qui se passent, des fissurations sous contrainte, qui se passent à la sortie du tube en U de la plaque tubulaire. Et donc actuellement, il y a tout un programme massif de changement de générateur de vapeur. On a changé l'alliage qui sert à faire ces tubes, de telle manière à ce que ça tienne plus longtemps, mais c'est en cours et dans le monde entier. Voilà des dessins de l'usine hein, qui... des générateurs de vapeur, bon, c'est une enceinte à pression, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà des... Alors, vous voyez la complexité du béton, hein, par rapport, si vous comparez la taille des éléments actifs que vous voyez là, la taille des superstructures, bon, c'est impressionnant. Et bien sûr, il y a des systèmes de sécurité, parce que tout ça, c'est sous pression. Donc, quand il y a de la pression, eh bien, il faut des soupapes. Donc, on a des soupapes à différents niveaux qui doivent se déclencher. On a des soupapes primaires. On a, bien sûr, l'arrêt d'urgence pour arrêter la centrale. S'il y a une fuite au niveau du générateur de vapeur, on a une alimentation de secours des générateurs de vapeur, c'est-à-dire on injecte en force de l'eau sous pression, hein, côté secondaire. Et puis, surtout, on a, là, ce que vous voyez, la borrication d'urgence, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire quand vraiment on veut étouffer la réaction et que les systèmes mécaniques ne sont pas suffisants, on veut les complémenter, et bien on envoie de l'acide borique dans l'eau primaire. Bon, je vais vite. Injection de sécurité, j'en ai parlé. Je vais juste terminer là par les projections. Si vous voulez, aujourd'hui, les centrales à eau pressurisée, c'est la technologie qui a écrasé toutes les autres. Et c'est bien standard et c'est bien maîtrisé dans l'ensemble du monde entier. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste toutes les technologies alternatives. Paradoxalement, elles sont connues depuis les années 50. On a tout imaginé sur le papier. Toute la difficulté, c'est de qualifier ces nouvelles technologies industriellement. Et pour les qualifier, il faut construire des centrales qui soient à l'échelle 1 et qui soient démonstratives de la fiabilité et de l'efficacité de ces technologies. Donc, je vous ai mis les différentes technologies en anglais. Donc, les des réacteurs rapides refroidis à gaz. Alors ça, c'est un truc sur papier. Hein. On n'en a jamais fait d'une façon... Des réacteurs refroidis au plomb. Les Russes ont beaucoup fait ça. Parce que dans les réacteurs rapides, on a besoin d'un fluide caloporteur qui ait un coefficient d'échange thermique qui soit élevé. Donc, ça, comme la taille des cœurs est petite, il n'y a que les métaux fondus qui permettent de réaliser ça. Donc, on utilise soit le sodium. L'avantage du sodium, c'est liquide à relativement basse température. Le plomb, ça a un inconvénient, c'est qu'il est liquide qu'à température déjà relativement élevée, et s'il y a des problèmes, une fois que le plomb est gelé, vous ne pouvez pas réchauffer, ça, c'est terminé, vous avez tout cassé. Et beaucoup de sous-marins soviétiques qui sont dans le fond de la mer de Murmansk ont des réacteurs refroidis au plomb. Donc j'ai travaillé avec les Russes, ils nous ont dit les plombs, c'est pas bon. Les sels fondus. Alors ça, c'est une technologie qui était, on va dire, anecdotique jusqu'à récemment. Et elle reprend du poil de la bête parce que là, il n'y a pas besoin de barre de contrôle. C'est-à-dire, il y a un système d'autorégulation de la réactivité. Refroidi à l'eau supercritique, c'est un concept papier. Variable température réacteur système. Alors ça, il y a déjà eu des centrales assez importantes. Une aux États-Unis, ça s'appelle Fort Saint-Vrain, qui faisait quand même 1200 MW électriques, qui a été arrêtée parce que c'était les auxiliaires qui ne marchaient pas. Et donc, quand vous avez plusieurs technologies, même si académiquement c'est séduisant, c'est la technologie qui est la plus rustique et qui est la plus éprouvée qui tue toutes les autres. Et c'est très difficile de faire émerger des nouveaux concepts industriellement. Voilà, alors, ça c'était un petit graphique pour montrer parce qu'aujourd'hui, les centrales nucléaires, pour l'essentiel, font de l'électricité. Mais on a un peu oublié que dans certaines technologies, on pourrait faire d'autres choses, comme par exemple la fabrication d'hydrogène par la décomposition à haute température de l'eau. Voilà, il y a les graphiques, je vous laisserai. Alors là, il y avait, ça c'était un concept qui est un petit peu arrêté maintenant. Tous les pays du monde se sont dit, eh bien, pour faire du développement de nouvelles technologies, on ne peut plus le faire au niveau national, on n'a plus les moyens financiers pour pouvoir le faire, financiers et même humains. Donc on va mettre en commun la recherche et développement dans un consortium mondial, ça s'appelait la Génération 4. Ça a un peu fait pchit, et maintenant on sent que les gens veulent revenir un peu sur des programmes nationaux ou dans des sous-ensembles plus larges comme l'Europe par exemple. Et là, je vais m'arrêter là, parce que moi, je n'ai pas été si mauvais que ça. Donc, j'ai à peu près tenu mon planning. Donc, comment peut-on conclure ? L'avenir du nucléaire est incertain. Alors, aujourd'hui, en France et en Europe, il y a un petit regain d'optimisme qui est lié au fait que la France relance son programme. Tout simplement parce que l'âge moyen de son parc actuel, il est tel qu'il faut se dépêcher pour faire les vieux choses, c'est pour faire simple. Mais vous savez qu'il y a des pays comme l'Allemagne et l'Italie ou même l'Espagne qui sont viscéralement opposés idéologiquement au nucléaire. Donc c'est un peu compliqué. Donc on n'arrive pas à obtenir un consensus à l'échelle de l'Europe. Qu'est-ce qui a fait historiquement le succès du nucléaire ? Eh bien, une seule chose, les crises de l'énergie, c'est-à-dire la montée brutale des prix des énergies fossiles. Qu'est-ce qui va relancer le nucléaire ? Eh bien, c'est exactement la même chose, les crises. Paradoxalement, le nucléaire, c'est l'enfant des crises. Voilà. On ne peut pas faire de nucléaire parce que des brûleurs à mazout, c'est quand même vachement plus simple que les centrales nucléaires. Ça a l'air idiot ce que je dis, mais bon, il vaut mieux le bon diesel que la Maserati. Voilà. Et l'autre débat, où se trouve le pouvoir de décision ? Et donc, c'est là que M. Poutine nous fait toujours la morale, en disant, moi, je fais du nucléaire, et il n'y a que moi qui commande dans mon système, et je dis qu'on fait du nucléaire, tant que je serai là, on fera du nucléaire. Basta, c'est tout, il n'y a pas de contradiction. Aux États-Unis, on ne fait plus tellement de nucléaire parce qu'on a du pétrole, et le pétrole de schiste, entre autres, donc on fait, c'est la technologie qui est pas chère, qui fait que on continue à faire du fossile. Voilà. Le jour où les puits de pétrole de schiste vont commencer à s'assécher, à mon avis, aux États-Unis, le nucléaire va repartir. Ça me paraît évident. Et donc, il faut promouvoir des nouvelles technologies, puisque l'histoire a montré qu'entre le moment où on fait un développement et le moment où vraiment ça devient industriellement acceptable et accepté, il se passe un certain temps, comme disait Raymond DeVos. Et c'est ça le mur contre lequel on bute, c'est le temps de développement industriel qui est, on va dire, 4 ou 5 mandats dans les pays démocratiques. Donc vous pouvez... La démocratie est incompatible avec le nucléaire. Je fais de la provoque exprès. Parce qu'on peut remettre le coup d'après en cause. Les cycles du nucléaire, c'est des cycles longs. La démocratie, c'est des cycles courts. Donc c'est comme ça. Donc les régimes autoritaires sont... très bien, d'ailleurs c'est le reproche que les antinucléaires font au nucléaire, c'est de dire c'est immaîtrisable parce que on peut changer d'avis toutes les 5 minutes. Voilà. Écoutez, je vous propose de m'arrêter là, puis j'écoute vos questions. Oui ?
Qui est votre avis sur le réacteur expérimental qui lui concerne la fusion ?
Oui, alors la fusion. Je sais que c'est le sujet qu'on m'avait demandé, donc je suis pas hyper pointu. Je peux en parler au niveau de ce que je vous ai dit là. Okay. Mais la fusion. vais vous raconter une petite histoire. Janvier 1939, on a la preuve expérimentale que la fission marche. 2 décembre 1942, c'est-à-dire, si je compte bien, ça fait 4 ans, ouais, à peu près, y a un truc qui marche opérationnellement, à l'échelle 1, pas sur la paillasse. L'idée de la fission, elle est connue depuis les années 30. C'est Hans Bethe qui a découvert le cycle du oxygène azote dans le soleil, donc qui a dit ben, je sais expliquer comment fonctionnent les étoiles, donc par le phénomène de fusion, donc mais sur le papier, par le calcul. On est en 2024, la démonstration expérimentale que la fission marche n'est pas obtenue. Donc, ça fait 90 ans. Elle est obtenue par le bout des ongles de l'hiver mort dans les cibles où on a fait du confinement inertiel, où on a démontré qu'on a fait plus d'énergie qu'on en a consommé pour canarder une bille de tritium. Donc, je reviens à mon discours précédent. Pour mettre au point la fusion, il faut un siècle. Et pas de démocratie. C'est QFD. Alors, il y a ITER. Nous, on fait notre pèlerinage à ITER tous les 5 ans. On va voir. C'est une merveille de technologie. Une merveille d'emmerde aussi, parce que c'est très compliqué. Enfin, c'est d'un tel gigantisme qu'on ne sait pas bien faire. C'est un système international, c'est-à-dire chacun amène, je vais vous faire, c'est un peu l'idée d'Airbus, si vous voulez, je fais un sous-ensemble, il n'y a qu'un seul bureau d'études, je vous rassure quand même tout de suite, mais je fais telle partie de la bobine, tel béton, tel appareil ici ou là, telle couverture du tor, etc., etc. Puis après, tout ça, ça s'amène, soit c'est fabriqué sur le site parce que c'est trop grand, soit ça vient de l'extérieur et puis on présente la pièce. Une section là du tor, ça fait 17 mètres de haut. Puis quand on a pointé le truc devant, ben, celle avec d'à côté, il y avait 2 cm d'écart. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on répare. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est pas simple. Voilà. Donc, la fission, c'est vachement bien sur le papier. Et en plus, il y a des difficultés technologiques qui sont encore très questionable, comme on dit. En particulier la couverture. La couverture, c'est ce qu'on appelle la paroi interne de l'aimant toroïdal, hein, dans laquelle il y a des échangeurs dans laquelle il passera du lithium pour fabriquer le tritium, si vous voulez, pour que réalimenter le système. Donc on sait maintenant maîtriser le plasma pendant plusieurs dizaines de minutes, ce qu'on ne savait pas faire il y a encore une dizaine d'années. Donc, on sait aujourd'hui que pour atteindre la seuil critique de déclenchement de la fusion, il faut un certain paramètre, il faut que la taille de la bête soit celle d'ITER. Si ITER démontre que les calculs sont justes, il faut faire encore une extrapolation en taille, c'est-à-dire une machine encore plus grosse pour que ce soit industriellement rentable. Donc, c'est... il y a un planning. Donc je rappelle qu'ITER, normalement, le premier tir, c'est en 2035. Avec les informations qu'on a aujourd'hui, c'est très questionable aussi. Donc, ça glisse. Hein. Mais, intellectuellement, alors, on dit, il n'y a pas de déchets. Ça, c'est du pipeau. parce qu'il n'y a pas de déchets au niveau du combustible, ça c'est vrai, puisque en fait on assemble des choses, on ne les casse pas en deux. Mais je peux vous dire que quand il faudra changer une vis à l'intérieur, il va falloir y aller avec caparaçonné en plomb, hein, parce que là ça crache. Hein. Donc les 10 000 tonnes, peut-être plus, de toute la infrastructure, ils en ont pris plein la gueule quand ça a tiré. Le fameux torque, la machine précédente qui s'appelle le jet, elle est en Angleterre, on a fait 2000 tirs non actifs. Le dernier, on l'a fait actif. On a mis du tritium. Puis on n'est pas rentré dedans pendant 6 mois. Ok ? Donc vous voyez, c'est pas si simple. Hein ? Autre question ? Oui ?
Tout à l'heure, vous avez parlé des centrales EPR. Pourquoi tu penses que les
centrales EPR, c'est les plus grosses des centrales, les dernières qui ont été faites en France, s'appellent le N4. On a simplement fait la gonflette, si vous voulez. Il y a plus d'éléments combustibles, la cuve est plus grosse, etc. Parce que la puissance unitaire est de 1650 MW. Alors que le palier en dessous, c'était 1400. Voilà. Mais il y a, conceptuellement, il n'y a pas de changement extraordinaire. Et qu'est-ce qui a fait que ça a été très cher? C'est qu'on a mélangé les exigences des Allemands et des Français. Et donc, on a fait le plus grand commun multiple des emmerdes des uns et des autres. Donc, exemple, on a mis le fameux cendrier. Vous êtes trop jeune pour avoir vu un film qui a été célèbre à l'époque qui s'appelle Le syndrome chinois. Le syndrome chinois, ça consiste à dire il y a une fusion de cœur, et puis ils font tellement qu'ils font la dalle en béton qui est dessous, puis ils rentrent dans la terre, puis ils vont jusqu'au noyau de la terre. Vous voyez le concept. Donc on dit, on va mettre quand même un truc en réfractaire là-dessous, au cas où ça percerait la cuve, pour récupérer ce qu'on appelle le corium. C'est pas de la science-fiction, ça existe, ça, le Fukushima, le cœur est complètement fondu, mais il est resté dans la cuve. Ça n'a pas percé. Mais ça pourrait percer, donc si ça perce, on a dit, on met un cendrier, ce qu'on appelle un cendrier. C'est pour descendre. Donc voilà une des complexités qui est apparue. Voilà. Je pourrais vous en citer d'autres, parce que là, si vous me parlez sur l'EPR, moi je suis un des coupables de l'EPR. Moi j'étais dans les premières équipes qui ont fait les débuts de la conception. Et on a eu beau dire, oulala les gars, vous partez dans les décors. Quand les chefs disent qu'il faut que ça marche, c'est un peu difficile. Alors je rappelle, donc ça, si mon petit engin a marché, donc je vous donnerai un lien pour pouvoir télécharger ma petite présentation là, et puis éventuellement la main qui va avec, pour faire des révisions, mais même pour les profs aussi. C'est moi qui vais poser une question, est-ce que je vous ai appris des choses?
Oui.
Et que vous ne saviez pas. Bon, ça me rassure. Parce que là, c'est un peu café du commerce, hein, mon petit exposé. Mais bon, c'est un peu le... Oui, alors, autre question, oui. L'élément combustible, oui.
Oui, tous les préparatifs en avant, les déchets qui sont produits à ce moment-là.
Oui.
Est-ce que c'est comparable aux autres sources d'énergie ou
pas? Comparable aux...
Si c'est comparable aux déchets qui sont rejetés dans les autres types de combustible.
Je ne saurais pas dire, il faut que je révise. J'ai bien compris la question, c'est les déchets aval par rapport aux déchets amont. Quantitativement, là il faut que j'aille dans mes archives pour chercher, je ne sais pas répondre. Alors actuellement, ce que l'on fait, il y a un laboratoire qui se situe à Bure. Bure, c'est dans l'Aube, donc dans la Champagne pouilleuse, hein, et je suis descendu à 500 mètres sous terre. J'y suis allé, j'ai vu. Hein. Et donc, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de déchets pour le moment. Le laboratoire, ça sert à quoi? Ça sert à dire ben, sous quelle forme on va les ranger dans le bloc d'argile, puisque vous avez une couche de 500 mètres d'argile. Alors, l'argile, on a l'image dans la tête du potier. Il y a un truc qui se manipule comme ça. Je peux vous dire que l'argile, ça ressemble à du marbre. Hein. C'est de l'argile, au point de vue structure cristallographique, si on peut dire ça comme ça. Par contre, c'est du béton. Hein. Et on fait des petits trous, des gros trous, des longs trous, des containers qui sont cylindriques, et des containers qui sont parallépipédiques. Donc ils ont tout essayé. Puis après, on fait des manips pour manipuler tous ces fûts, on va dire, de déchets. On les fait tomber de 10 mètres de haut. Il n'y a pas y a rien dedans, je vous rassure tout de suite, pour vérifier que ça n'explose pas. Donc c'est un labo de technologie. Et si, parce que pourquoi ce lieu a été choisi, puisque c'est un lieu qui, on sait par les géologues, qu'il n'a pas bougé depuis 1,5 milliard d'années. Les couches phréatiques qui sont à 2 mètres sous le sol, ben elles sont 500 mètres au-dessus. Donc même si, enfin bon, toutes les études ont été faites et tout, donc, mais il y a toujours des gens qui disent, ah ben oui, on ne veut pas de, comme on dit en anglais, NIMBY, vous connaissez ça? NIMBY, not in my backyard. C'est pas dans mon jardin, pas chez moi. Donc aux États-Unis, on parle d'une installation, c'est une installation NIMBY. Je suis d'accord à condition que ce ne soit pas chez moi. Hein. Voilà. Ils sont champions pour inventer des acronymes. Oui ?
J'aurais une question. Pour répondre, ça commence pas dans mon jardin, mais c'est la même chose pour les éoliennes.
Oui, 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 pour n'importe quoi.
Ils veulent bien ailleurs.
Pour n'importe quoi. Oui, pour n'importe quoi. Oui.
Donc, c'est simplement la question que se pose, je pense, ceux qui. Il y a les tenants et les opposants à l'énergie nucléaire comme source d'énergie. Je pense que ce qui est sous-jacent, c'est le risque pour l'homme, le risque d'irradiation. Alors, quel est-il? Quelle est la réalité du risque?
Eh bien, alors là, j'ai. Il me semble que j'ai un petit tableau. Alors, je vais. Là, vous me posez. Je dois avoir la réponse dans mon ordi. Je ne le retrouve pas comme ça. Donc j'ai un tableau, je pourrais le mettre, j'ai un tableau qui fait le nombre de morts sur les 40 dernières années, type d'énergie par type d'énergie. Donc là, il n'y a pas photo, l'énergie nucléaire est imbattable. Le charbon fait 20 000 morts par an, essentiellement des accidents dans les mines. Et là, on a pris les morts directes. Parce que, après, c'est toujours le fantasme. Vous savez, avec Fukushima, on avait dit ben, il y a 1 million de personnes qui vont mourir dans les 5 ans qui viennent dans l'ensemble de la planète. On ne les a pas vus. Enfin, bon, ça, vous pouvez. C'est du domaine de la croyance. Toute approche rationnelle est refusé par les opposants. Donc, j'ai suffisamment d'expérience pour dire que ce n'est pas la peine de se fatiguer. Il faut dire ben, on a notre chemin, puis on va en avant. Voilà. On ne les convaincra pas. C'est pas possible. C'est pas possible.
C'est ce que je voulais vous faire dire, c'est que la comparaison, le risque de faire de l'énergie.
Oui, oui.
D'accord, quand on parle du charbon, on ne parle pas de la silicose.
Bah, écoutez, prenons Tchernobyl. Donc c'était horrible, Tchernobyl. Hein. Donc il y a eu 31 morts directes, c'est-à-dire dans le mois qui ont suivi, des gars qui ont été complètement grillés, parce que finalement, bah, ils en ont pris plein. Hein. Donc ils ont été grillés, je ne peux pas dire mieux. Et après, bon, il y a sûrement quelques centaines, mais qui ne sont pas directement comptabilisés. Vous trouvez tout ça sur Internet, dans des rapports de l'OMS, il y en a 1000 pages, bon, c'est... Voilà. Et après, on a dit ben, la population environnante. Alors, vous savez qu'on a évacué les gens, mais quelques semaines après l'accident. Donc, ils avaient dû quand même en prendre un petit peu. Et il y a effectivement une mortalité un petit peu supérieure dans ceux qui avaient été évacués. Les études de l'OMS disent ben, c'est lié à l'aspect dépressif des gens qu'on avait virés de chez eux. Et vous allez à Tchernobyl, vous savez, actuellement, il y a un tourisme à Tchernobyl qui est très à la mode, et c'est un magnifique parc animalier. Jamais il y a eu tant de bêtes sauvages dans toutes les villes à Pripyat et tout. C'est magnifique. Alors, c'est la jungle, on va dire, mais il y a une vie, c'est comme à Hawaï, comme sur l'île de Bikini, où on a fait péter la première bombe H. Des Américains, on a dit, ben pendant, évidemment, on avait enlevé tous les habitants, puis pendant 10 ans, on n'y est pas allé. On a fini par y retourner. Vie absolument luxuriante, en particulier tout ce qui était crustacé et tout, c'était extraordinaire. Hein. Non, la vie s'adapte. Vous savez qu'il y a des zones dans le monde, en Chine par exemple, vous avez des zones dans lesquelles il y a la radioactivité naturelle est 10 000 fois supérieure à ce qu'elle est en France. Et les gens vivent là depuis toujours. Des réacteurs nucléaires, il y en a eu, des réacteurs nucléaires naturels. Je ne sais pas si vous savez ça. On a découvert qu'il y a eu des réacteurs nucléaire naturel par des effets dans certaines configurations géologiques. Il y avait beaucoup d'uranium à certains endroits et il y avait de la flotte qui est tombée là-dessus. Il y a eu une configuration qui a fait que la réaction s'est déclenchée. Et on le sait parce qu'on a les produits de fission qui apparaissent dans l'environnement. Puis après, ça s'est éteint parce que la flotte a disparu, machin. Mais on a les preuves géologiques que la fission a existé dans certains... C'est en Afrique, je ne me souviens plus exactement de l'endroit où ça se trouve. Voilà, donc si on veut être simple, pour vous qui allez commencer votre carrière... La technologie, ça demande des temps longs. Et donc, il y a une constance dans l'effort. Et donc, ce n'est pas vous qui serez les décideurs ou dans quelques dizaines d'années. Et ça a marché dans certains pays, en particulier en France, parce qu'il y avait, on va dire, le lobby pro-nucléaire. Je rappelle quand même que Pierre Joliot, il a eu un prix Nobel, il était quand même le patron du CEA, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Je rappelle, le CEA, c'est la première structure civile qui s'occupe du nucléaire qui a été créée au monde, avant les États-Unis, novembre 1945. Les États-Unis, l'équivalent du CEA, a été créé le 1er janvier 1947. C'est l'AEC, c'est le sigle à l'envers. Atomic Energy Commission. Et donc Est-ce que vous êtes allé voir Oppenheimer?
Oui.
Donc vous voyez le gars Strauss, le gars qui est le méchant, là, qui est viré à la fin, là, c'était le deuxième patron de l'AEC. Et c'est pas tellement dit dans le il est très bien fait, le film. Hein. J'ai une très bonne conférence sur le projet Manhattan. Mais là, c'est pas en une heure, hein, mais c'est du costaud. Hein, voilà. Je connais l'histoire sur le bout des doigts. Voilà. Et donc, ben là, c'est l'exemple typique. Strauss, c'était le politique. En plus, il l'avoue même dans le film, il dit « j'y connais rien au nucléaire, mais je suis le patron du nucléaire » parce que le président de l'époque, c'était Truman, a dit ben, « t'es mon copain, donc il y a une place à prendre, je te mets là, parce que je veux pas des gars qui soient... J'en ai marre des ingénieurs qui nous commandent. Il n'y a rien de changé. Vous savez, vous entendez ça aussi dans nos cercles de pouvoir. Voilà. On n'aime pas être commandé par des gens qui ont une compétence technique supérieure à la sienne. Donc c'est tout le défi du politique. C'est comme ça. Il faut faire avec. C'est bon ?
Monsieur Fournier, non, une dernière question.
Le gouvernement français a lancé, alors je ne sais pas où ça en est, mais vous allez peut-être nous en parler, la fabrication en fait, de petits réacteurs pouvoir les placer un petit peu partout en France. Est-ce que ces petits réacteurs fonctionnent sur le même principe ?
Non, alors, celui qui est, s'appelle New World, ça fonctionne sur le même principe. C'est la technologie PWR.
Ouais.
C'est les réacteurs de sous-marins qui ont été réadaptés, donc il y en a deux dans une enceinte et tout. Bon. Alors, l'histoire des petits réacteurs, j'en ai pas parlé, parce que effectivement, dans tous les pays du monde, on a lancé un petit peu le concours Lépine des nouveaux réacteurs, et surtout des petits réacteurs, parce que nos gros monstres-là que j'évoque, ça va bien dans des pays industrialisés qui ont un réseau électrique qui permet de distribuer l'énergie gigantesque qui est fournie par ces équipements. Mais dans beaucoup de pays, il n'y a pas de réseau, et puis les besoins sont très locaux. Et ce fantasme de petits réacteurs, il existe depuis les années 50. Mais si vous miniaturisez ce concept-là à l'échelle de 50 MW, c'est des prix astronomiques. Donc, on a toujours buté sur cet obstacle. Alors, on dit, on met le compteur à zéro en disant, faites-nous des choses qui soient très simples, mais de taille modeste. Et surtout, en particulier, pour faire uniquement, il y a beaucoup d'applications, surtout dans l'industrie, où on n'a besoin que de chaleur, et non pas tellement d'électricité. Et donc, il y a beaucoup de réacteurs qui ont soit uniquement de la chaleur, soit chaleur plus électricité, mais dans des gammes de 50 MW seulement. Nous, chez nous, défilent un certain nombre de guignols comme ça qui travaillent là-dessus, qui nous font des conférences là-dessus. Donc on a déjà vu 3 ou 4. Aujourd'hui, en France, il y en a peut-être une vingtaine, et puis dans le monde entier, il y en a 70 à 80 de concepts différents. Voilà. Donc c'est bien, parce que là, c'est... il y aura toujours la difficulté de passer du petit prototype à la validation industrielle. Alors on dit, l'argument qui va dans l'autre sens, il dit, comme c'est petit, pour faire la validation industrielle, ça sera plus facile à faire que pour ces gros monstres. C'est pas idiot comme type de raisonnement. Encore faut-il qu'entre le moment où vous avez le design papier, où vous dépensez 10 millions d'euros, et le moment où il faut faire le petit réacteur, et là c'est le milliard qu'il faut poser sur la table cash, là vous cherchez les couillons qui veulent bien y aller. Alors c'est pas qu'ils n'ont pas le milliard, c'est de dire, moi je suis à la foire du nucléaire, et j'ai 80 articles sur l'étagère, lequel je prends pour un milliard. C'est ça la difficulté. Et là, on retombe dans dans le problème du politique, qui va dire ben, messieurs les ingénieurs, dites-moi celui qu'il faut que je choisisse. Évidemment, chacun va dire c'est celui-là, 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 celui-là. Mais vous me faites chier, j'y comprends rien. Et comment, sur quels critères je vais prendre mon jugement? Donc je décide pas parce que je sais pas, je n'ai pas les éléments pour décider. Monsieur Macron, j'ai rien contre Monsieur Macron. Monsieur Macron, il a une formation littéraire. Il comprend pas la technique. Il est suffisamment intelligent pour que quand on lui explique, il comprenne. Mais c'est pas dans ses chromosomes. Donc il a des tas de conseillers, mais quand il y en a la moitié, il l'a dit dans sa conférence de presse, il a dit, quand je suis arrivé, il y avait la moitié des gens qui étaient pour, l'autre moitié qui était contre. Mais ça voulait dire implicitement, moi j'avais pas d'avis sur la question. Et c'est normal qu'il n'ait pas d'avis sur la question, il n'est pas ingénieur. On bute sur ce problème. On a eu une première ministre qui n'a pas duré très longtemps. C'est la première fois qu'on avait un polytechnicien au sommet de l'État depuis Giscard d'Estaing. C'est tous les 50 ans. Au début du XXe siècle, il y avait des polytechniciens ministres dans tous les gouvernements. Maintenant, il n'y en a plus. Il n'y a que des énarques. Les énarques, ils sont nuls, de ce point de vue-là. Parce qu'ils n'ont pas de formation technique. Ce n'est pas un reproche que je leur refais. Ils n'ont pas de formation technique. Donc ils n'ont pas d'avis sur la question. Ils sont obligés de s'appuyer sur des experts. Et les experts, sur quels critères je vais dire que l'expert numéro 1, il a raison, alors que l'expert numéro 2 a tort. Si M. Bréchet, si vous aviez invité M. Bréchet, mais M. Bréchet, c'est l'ancien haut commissaire, machin, c'est un politicien aussi. Hein. Moi, je ne suis pas monsieur tout de suite. Hein. Eh bien, il pousse des gueulantes dans les médias depuis des années, là, en disant ce que je viens de dire. Exactement, je ne l'ai pas inventé, c'est M. Bréchet, il a dit, moi, ce que je reproche, c'est pas qu'on a fait les mauvais choix, on m'a même pas demandé mon avis, alors que j'étais haut commissaire à l'énergie atomique. Donc il a dit à M. Macron, je te fais un bras d'honneur. Parce qu'il parle comme ça, hein, je le connais. Hein. Bon, voilà. Ben écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. C'est un peu qui a fait du commerce, mais enfin, disons, le message passe mieux comme ça. Hein. Allez. Bon, merci, je suis mes goals parce que.
Messieurs, avant de partir, s'il vous plaît, vous reprenez les chaises et vous les mettez sur le.